Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry, Halud Mouni.
Chenni Berry, Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Gouvernance, quel est l'impact de l'argent sur la démocratie au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Merci à nos quatre invités sur ce plateau. Issa Togo, qui est le coordinateur scientifique du groupe Odyssée. Issa Togo, député élu à Koro sous la couleur de Adema. Et Nuhum Sar, président du parti FAD représentant l'opposition. Adam Diko, directrice exécutive de AGICAD de Mali, de la société civile. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Spectateurs de Studio Tamani, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Prima Fomba, vous êtes coordinateur scientifique du groupe Odyssée. Vous avez mené une étude sur argent et démocratie au Mali. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce rapport?
Merci beaucoup, bonsoir à tous. En fait, cette étude a été menée par le groupe Odyssée. Mais il s'agit d'une étude qui a été commanditée par NIBL, qui est un institut néerlandais justement qui s'occupe un peu des questions de démocratie multipartiste. L'étude là, pour bien planter le décor de cette étude, je commencerai par paraphraser un auteur qui disait que l'argent est le lait maternel de la démocratie. Si effectivement l'argent est le lait maternel de la démocratie, moi je me dis que ce lait-là, quand on veut effectivement le faire boire par cette démocratie, il faudrait faire attention de ne pas aller à une certaine dose. Parce qu'à une certaine dose, ce lait-là peut s'avérer mortel pour la démocratie. Donc le constat au Mali, effectivement, ça soulève cette problématique qui est le constat général que tout le monde peut faire, qui est le poids que l'argent tend de plus en plus à prendre au sein de l'espace démocratique du Mali. L'argent a occupé aujourd'hui une place centrale qui interpelle aujourd'hui tous ceux qui ont à l'idée effectivement de contribuer justement au renforcement démocratique au Mali. Le constat, il est lequel? Il est que d'une part, la loi électorale du Mali a prévu tout un ensemble de dispositions pour encadrer l'utilisation de l'argent dans le cadre des campagnes électorales. Mais en même temps, malgré ces dispositifs législatifs d'encadrement, on voit qu'au fil des différents scrutins qui se suivent au Mali, notamment depuis 1992, pour le pari monter plus tard, on voit que de plus en plus, l'argent devient l'enjeu majeur même du processus électoral. Donc, c'est face à cette interpellation dont je pense que plus ou moins chacun a conscience dans une certaine mesure au Mali aujourd'hui. Donc, l'étude visait notamment à attester justement ce sentiment général du poids de l'argent pour essayer de le prouver à travers des estimations chiffrées, à travers des constats réels sur le terrain. C'est ça qui fait que, bon, nous, on a mené cette étude effectivement, dans cette double vision, pour avoir une appréciation de proximité de la question, donc pour mieux toucher du doigt les pratiques de terrain et aussi les montants financiers qui sont engagés dans les campagnes. Donc c'est comme ça qu'on a mené l'étude. A priori, on n'a pas voulu avoir d'a priori, comme on le dit. Donc on a voulu aborder la question comme ça, on s'est rendu sur le terrain pour voir comment on finance les élections au Mali. Donc, on a demandé les acteurs du terrain, les candidats notamment, comment ils financent les élections. Quelles sont les sources du financement de leur campagne électorale. On a aussi demandé quelles sont les dépenses auxquelles le candidat est confronté. Tous les types de dépenses. Comme je l'ai dit, sans a priori, est-ce qu'il y a des dépenses de corruption, il y a ceci, cela. Hein? Pour être même plus clair, on a sciemment évité d'utiliser le mot corruption. Parce que pour ne pas créer de susceptibilité, afin que les gens puissent nous s'exprimer clairement quelles sont les dépenses qui sont effectuées sur le terrain, comment les élections sont financées. Maintenant, pour ne pas entrer déjà dans les détails, le constat est qu'au niveau des ressources, des sources de financement, on a constaté que les campagnes électorales sont à plus de 80% de sources privées pour le financement. Donc, c'est les ressources privées qui servent à 80% à financer les élections au Mali, les campagnes électorales au Mali. Le deuxième constat, c'est que finalement, les ressources publiques sont très modestes, pour ne pas dire existantes, on peut dire. Donc, c'est quand même un élément qui interpelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aller dans une campagne électorale. D'autant que même la contribution des partis politiques s'avère très modeste. Donc, finalement, c'est le poids économique du candidat qui devient le facteur qui prime finalement sur d'autres critères qui, normalement, auraient pu être en première ligne et dans des questions politiques de gouvernance. Donc, ça, c'est le constat général. Si vous voulez des chiffres, je vais résumer tout simplement. C'est que globalement, et je précise que ces chiffres sont assez approximatifs pour la simple raison que, comme il n'y a pas de réglementation, et même quand bien même qu'il y a une réglementation, elle n'est pas respectée. Donc, il y a toutes sortes de dépenses quoi, qui sont effectuées. Donc, si on fait la sommation de toutes ces dépenses, nous sommes arrivés au chiffre global pour les élections législatives. Mais je précise qu'il s'agit bien évidemment d'une moyenne, quoi, en fait. Donc, ce n'est pas un chiffre qui est valable dans tous les cas de figure, mais c'est une moyenne qui est assez objective, je peux dire, objective. C'est que pour les législatives aujourd'hui, la campagne électorale se chiffre à peu près à 36 333 901 francs CFA. Donc, si vous voulez vous présenter pour l'élection législative au Mali, être candidat, globalement, en moyenne, vous avez à payer à peu près 36 millions de francs CFA. Maintenant, pour les élections communales, comme je le dis, c'est là aussi des chiffres approximatifs, c'est des moyennes. C'est environ 13 147 520 francs CFA. Donc, voilà à peu près les moyennes qui tiennent compte, évidemment, de toute la situation d'ensemble. C'est des moyennes qu'il faut aborder en n'oubliant pas que dans tous les cas de figure, puisqu'il n'y a pas de compte de campagne, il n'y a aucune réglementation, y compris le candidat lui-même n'étant pas tenu de se contraindre par des comptes quelconques, on dépense comme ça. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que le candidat lui-même qui vous donne les chiffres. Hein,
on va revenir tout de suite sur
voilà,
les conséquences.
Il n'a pas la maîtrise totale même de ses dépenses. Quoi. Donc, voilà un peu le parlement chiffré.
Et donc, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre autour de cette question, c'est l'objectif de ce grand dialogue. Issa Togo, vous êtes député. Aujourd'hui, quel est l'impact de l'argent sur la démocratie au Mali?
Merci bien. L'impact de l'argent sur la démocratie. Bon, moi, je vais remonter un peu dans le temps. Au départ, on ne faisait pas l'argent intervenait. L'argent, on avait juste besoin, peut-être que pour se déplacer dans les campagnes. L'argent n'intervenait pas tellement dans les campagnes, dans la démocratie, au départ. C'est par la suite que l'argent est intervenu. Bon, à ce moment, la manière dont l'argent est intervenu dans notre système électoral, moi je parle bien sûr en ce qui concerne les élections législatives. Je crois que l'étude aussi a fondamentalement porté sur ça. L'argent intervenu dans les élections législatives, pour moi, cela est un peu lié au système électoral. C'est le système électoral qui a fait que, de plus en plus, l'argent rentre dans les élections. Moi, ma première élection, je ne savais pas qu'il fallait sortir de l'argent pour se faire élire. Je n'en connaissais pas. Les gens de Kourou m'ont élu. Chaque mois, je débourse un rotin. Chaque mois, je débourse de l'argent. Ils m'ont demandé, Issa, tu viens, tu vas être notre candidat. Et je suis venu, j'ai été candidat. Je n'ai pas levé l'argent, j'ai été élu. Ça veut dire quoi? C'est la reconnaissance.
Qui a financé votre campagne donc?
Mais je te dis que la première fois que je devais être élu en 2002, je dis que je n'ai pas financé. Moi, je n'avais pas financé du tout.
Qui l'avait fait?
juste les déplacements pour prendre du carburant, pour aller de village en village, pour expliquer aux gens, voilà, c'est lui Issa, et j'ai tel projet pour Kourou, c'est tout. Sinon, je ne donnais pas du sel aux gens, je ne donnais pas du sucre aux gens, ça n'existe pas en son temps. En 2002, je ne l'ai pas fait. Mais au moins, j'ai le minimum quand même pour payer mon carburant pour aller chez les gens.
Et ça, traditionnellement, ça c'est votre cas. Mais quand vous analysez la situation de façon globale, aujourd'hui, avez-vous l'impression que les élus achètent plus les voix plutôt que de les convaincre?
J'ai dit que je viens dans le temps, j'ai dit que c'est lié au système électoral. Donc ça veut dire qu'on se reconnaît à quelqu'un par rapport à une localité donnée, par rapport à un lieu donné. On veut qu'il soit élu. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Mais maintenant, vous êtes des Nara, vous voulez aller vous faire élire à Kourou. Kourou ne vous connaît pas, les gens de Kourou ne se reconnaissent pas en vous. Vous avez beaucoup d'argent pour vous faire élire par force là-bas. Vous serez obligé de débourser de l'argent. Vous allez tenter d'acheter la conscience des gens à ce moment que l'argent est rentré. Donc, ça veut dire quoi? Si on faisait un découpage électoral, chacun chez lui, dans le milieu où on le connaît, l'argent ne peut pas faire la différence. C'est la valeur de l'individu qui fera la différence. L'argent rentre dans la politique, l'argent rentre dans les élections législatives parce que le système est biaisé. On fait une liste de députés. Une liste de députés, il y a des coins de Kourou où on ne me connaît pas. Je ne peux même pas parler leur dialecte.
D'accord, et on va y revenir tout de suite. Noumsar, avez-vous l'impression aujourd'hui que les voix des électeurs sont achetées au Mali?
Oui, l'argent incontestablement occupe une place prépondérante dans l'organisation, dans les élections, dans les campagnes électorales. C'est un fait, c'est un constat qu'on ne peut pas ignorer. Cela a une histoire. Hein. Vous savez, après l'avènement de la démocratie multipartite, il y a eu ce que nous avons appelé un clan de conquête de pouvoir en vue de contrôler l'appareil d'État pour amasser les ressources. Et ce n'était pas, on n'allait pas à la conquête du pouvoir pour penser le développement, mais plutôt pour amasser les ressources du pays en donnant des marchés de gré à gré, en fabriquant des milliardaires, des fonctionnaires milliardaires, en tout cas en amassant considérablement de moyens financiers. Et comme il faut arriver au pouvoir pour amasser, on n'hésite pas à éjecter suffisamment de ressources financières pour maintenir un peu cette hégémonie sur l'appareil d'État. Et cela a donné naissance, bien sûr, à l'explosion des achats de conscience, achats de vote, et c'est ce qui se poursuit malheureusement jusqu'à l'heure où nous sommes. Nous avons fait la preuve, nous avons vu la preuve avec les élections présidentielles passées, les élections législatives passées. De l'avènement de la démocratie multipartite à aujourd'hui, c'est allé en augmentant de volume. Ça, c'est une vérité incontestable. Nous avons vu le cas de Ségou, quelqu'un qui est arrivé de nulle part, malgré qu'il appartenait à une grande famille, qui a investi beaucoup d'argent dans la campagne électorale lors des législatives 2013. Et nous sommes dans ce constat-là.
Et tous les partis ne sont-ils pas concernés, que ce soit la majorité, l'opposition, le centre?
Vous savez, les partis n'ont pas les mêmes moyens. Les partis politiques dans notre pays, pour en tout cas la plupart d'entre eux, ce sont des scissions, des dissidences des deux grands partis politiques qui étaient présents lors des élections de 92, Kladima et le Sinit. Et ils se sont calqués un peu sur le même mood, le même modèle de fonctionnement. Tel n'est pas le cas du parti dont j'ai la responsabilité, qui se bat aujourd'hui pour faire en sorte qu'émerge une nouvelle façon de faire la politique.
Et on va y revenir. Brima Fomba, il l'a dit tout de suite, les partis n'ont pas les mêmes moyens. Alors au Mali, les électeurs élisent-ils en fonction de la conviction, en fonction des compétences du candidat ou en fonction de son argent?
J'avoue très franchement, pour ne pas faire la langue de bois, qu'au Mali aujourd'hui, l'élément central qui conditionne les choix électoraux, c'est l'argent. C'est l'argent, ou en tout cas, c'est des contreparties. En argent, en nature, en promesses d'emploi, en promesses de marché public, etc., etc. C'est ça qui conditionne le vote au Mali. Ça, c'est un fait aujourd'hui. C'est vrai que De façon générale, hein, parce que bon, nous parlons du cas du Mali, mais on n'oubliera pas que c'est un phénomène général, hein, que cette tentation-là est là dans tous les pays, qui est due aujourd'hui à la crise de la représentation, à la crise des idéologies. Donc, comment faire en sorte de moduler la voie électorale? C'est ça, il y a une crise, parce qu'on ne vote plus parce que tel parti défend tel ou tel idéal auquel on croit soi-même, mais on vote de manière très très pratique contre espèces sonnantes et trébuchantes, comme le dit. Mais ce qu'il faut signaler, s'agissant du cas particulier du Mali, c'est qu'il y a un laxisme généralisé de la part des autorités à ne pas appliquer la loi. Ça, on retrouve cette question au bout de l'ensemble des problématiques de gouvernance au Mali aujourd'hui. Parce que si on en est là où on est aujourd'hui, c'est un peu parce qu'il y a le laxisme de ne pas appliquer la loi. La législation électorale, malgré sa faiblesse, elle n'est pas appliquée. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, si vous n'appliquez pas la loi, les gens développent des pratiques. Des pratiques de corruption, les gens de quoi, ça c'est interdit par la loi électorale. Et ça s'est fait au vu et au sous aussi de tous. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a rien. Donc, comment voulez-vous que ce soit autrement? C'est ça la question fondamentale. Alors, donc, on ne peut pas espérer, effectivement, envisager qu'on sorte un peu de cette situation si cet aspect n'est pas pris en compte.
D'accord. Une des causes, c'est le laxisme, selon Brahim Afomba. Non,
écoutez, vous ne m'avez pas permis de terminer mes idées.
Allez-y.
Vous m'avez coupé. Je disais à Koro, il y a des coins où je ne sais pas parler le dialecte. Je suis des Koro, ils sont tous des Koro. Mais à ce niveau, j'ai beau enlever l'argent, mais un autochtone de là-bas, il n'enlève rien, mais il va me battre aux élections. Tout n'est pas argent, j'ai dit.
Mais est-ce que c'est toujours
non,
le cas?
Non, je viens.
Est-ce que c'est toujours
pas,
le cas?
Tout n'est pas argent. Moi, je mets d'abord en cause le système électoral. Je mets en cause le système électoral et aussi, quelque part, le respect des textes. Je souhaiterais aussi qu'on recadre un peu le débat, si vous me permettez l'expression.
Répondez à cette question d'abord. Vous avez rejoint M. Brahim Afomba en parlant du respect des textes. C'est ce qu'il dénonce.
Je suis d'accord avec lui, le respect des textes. Par rapport au respect du texte, je m'explique. Ça veut dire quoi? Si on faisait, par exemple, un système électoral pour les députés, puisque l'étude a porté sur l'élection des députés, si on faisait un système électoral uninominal, chacun pour soi, Dieu pour tous, on n'a pas besoin de faire une liste de 7 personnes, 8 personnes, 10 personnes, auxquelles peut-être que la population ne se reconnaît que peut-être à 2 ou 3 personnes. Non. Vous faites une élection uninominale. L'argent ne peut pas faire la différence là-bas. C'est la valeur du candidat qui fera la différence par rapport à l'argent. L'argent est rentré, puisque maintenant, comme il le disait tantôt, même si quelque part j'ai noté le système électoral, le système de son parti qu'il conduit par rapport aux autres partis, ou par exemple aux miens ou aux autres, je dirais au Mali ici, presque tous les partis c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Les partis n'ont pas les moyens. S'il faut enlever l'argent, il n'y a pas quelqu'un qui n'enlève pas l'argent. Tous les partis enlèvent l'argent, comme il a dit. Les moyens d'un parti à un autre peuvent différer. Mais en réalité, pour ces élections législatives sur lesquelles le titre a porté, les intéressés, il a si bien dit dans sa conclusion, les intéressés, les candidats, ils financent beaucoup plus que les partis. L'apport du parti est presque insignifiant par rapport à l'apport des candidats. Donc, moi je pense que le problème d'argent dans l'élection, c'est nous qui l'avons créé de toutes pièces.
Nous, c'est qui?
Nous, si je dis, tous les Maliens. Tous les Maliens. Les candidats, si vous voulez, les électeurs, le gouvernement, c'est nous qui avons voulu que ce problème d'argent intervienne.
Vous l'avez dit, une des causes, c'est le non-respect des textes. Qui est responsable du non-respect des textes au Mali?
Le respect, c'est tout le monde. C'est pas, on
peut principalement,
pas...
qui est le premier responsable du respect des textes?
Le premier responsable du texte, les candidats d'abord doivent respecter les textes. L'électeur doit les respecter. Le gouvernement doit respecter les textes. C'est tout le monde. Il faut que les gens le respectent. Et qu'ensuite, au-delà du respect des textes, il faut qu'il y ait des sanctions. Malheureusement.
Qui doit sanctionner?
Les sanctions... À qui de droit l'autorité, compétente doit sanctionner. L'État doit sanctionner quand on dit, bon, tu dois pas dépasser un tel montant au cours des élections et que l'individu dépasse, il n'y a pas d'achat de conscience et qu'il y a eu des cas d'achat de conscience avérés avec preuve à l'appui, il faut qu'il y ait des sanctions. Les sanctions peuvent aller à l'annulation des voix, elles peuvent aller, je ne sais pas, pénales, ainsi de suite. D'accord. Mais très malheureusement, tout ça, ce n'est pas bien cadré.
Noumsar, êtes-vous d'accord avec les deux intervenants sur le non-respect des textes qui serait une des principales causes de cette situation?
Ben, ce n'est qu'un constat. Parce que, honnêtement, le Mali est l'un des pays où nous avons le taux le plus élevé du non-respect des textes et de non-application des sanctions qui s'imposent. Le respect des textes incombe certainement à tout le monde. Mais la sanction du non-respect des textes incombe à l'État, à la puissance publique. Tel n'est pas le cas. Pourquoi on ne respecte pas les textes? Parce que ceux qui sont en charge, en principe, de sanctionner sont les premiers à les violer. Ça, c'est une réalité évidente. On ne peut pas le nier. Vous savez, nous sommes dans un pays où le pesanteur social et culturel agit de façon visible sur la scène politique. Nous sommes dans un pays où vous passez votre temps à piller les ressources. Vous êtes un douanier, vous volez beaucoup d'argent. Vous êtes un directeur d'un projet, vous volez beaucoup d'argent. Un beau jour, pour avoir l'immunité parlementaire, vous vous engagez dans la conquête d'un siège de député. Vous verrez que dans votre entourage, les chefs de village, les notabilités, tout le monde se met derrière vous. Et on combat celui qui, pendant des années, c'est soucier des questions de santé, d'éducation de la communauté. C'est une réalité évidente. Mais ce n'est pas tombé du ciel. Il y a des responsables. C'est pourquoi je disais que la conquête du pouvoir politique dans notre pays a pour mobile aujourd'hui le contrôle des ressources du pays. Ce qui ne doit pas être en principe le cas. La conquête du pouvoir politique doit avoir pour mobile...
Mais ces responsables sont-ils de la majorité comme de l'opposition?
Je dis, dans les partis de la dynastie Adimasnid, bon, c'est un peu, c'est une réalité.
Mais certains cadres de l'opposition sont également passés par le gouvernement, ils ont dirigé certaines structures, ministères. Est-ce qu'ils sont aussi responsables?
Mais bien sûr, je dis, les partis de la dynastie Adema ont une forte responsabilité dans cela. Dire les choses telles qu'elles se sont passées, ce n'est pas porter atteinte à qui que ce soit. Mais c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, le contrôle des ressources de l'État est le premier mobile de la conquête de l'exercice du pouvoir. C'est malheureux. La tendance doit changer. C'est pourquoi il faut l'émergence incontestablement d'une nouvelle vision politique.
Dans quelques instants. Voilà. Madame Diko, merci de nous rejoindre. Vous êtes directrice exécutive de AGICAD de Mali. Aujourd'hui, le thème, c'est gouvernance. Quel est l'impact de l'argent sur la démocratie? Quelle est votre analyse sur la situation au Mali?
Bonjour et merci à Studio Tamani pour l'invitation. Alors, ce thème, je crois que ça vient à point nommé, parce qu'aujourd'hui, qui connaît la démocratie malienne sait que l'argent joue un poids assez énorme et assez négatif sur notre démocratie, notamment l'utilisation que font les partis politiques de ces fonds-là, de l'argent pour l'achat de pouvoir et tout. Alors, tantôt, j'ai entendu un peu les responsabilités des uns et des autres, notamment des partis politiques, du pouvoir public, mais aussi des citoyens. Je pense que la plus grande responsabilité incombe aux partis politiques. Et au Mali, sans exception, tous les partis politiques joue sur ce terrain-là, c'est-à-dire essayer d'acheter les gens avec de l'argent. Quand on voit un peu les coûts utilisés pendant les campagnes, que ce soit les élections présidentielles, les élections législatives ou les élections communales, on voit que les partis politiques dépensent des milliards pour les campagnes électorales. Mais et pourtant, ces milliards sont mobilisés comment? on se pose pas la question là-dessus. Ces milliards sont mobilisés comment? Qui connaît les partis politiques au Mali sait que la cotisation des militants. Alors, très souvent, on dit même que les partis politiques au Mali n'ont pas de militants, ils ont des électeurs et qui sont mobilisés pendant les campagnes pour qu'ils aillent voter pour eux. Et ces électeurs sont mobilisés comment? Sont mobilisés à travers de l'argent. Et ça fait qu'on ne mène plus le débat sur les idées, mais plutôt sur la capacité de pouvoir acheter, la capacité de pouvoir offrir des cadeaux ou des promesses aux gens. Ça fait qu'aujourd'hui, notre démocratie est devenue une démocratie de façade. On a accepté les partis politiques de forme, mais le contenu, ce n'est pas un parti politique qu'on cherche. Parce que vous trouverez dans un parti politique, celui qui est leader, c'est-à-dire le président de parti politique, il est président jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au déclin du parti ou jusqu'à ce que lui-même se fatigue, parce qu'il est le seul bailleur du parti. C'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui mobilise les fonds, c'est lui qui maîtrise tout le monde. Donc du coup, ce n'est pas un parti politique, c'est devenu une dynastie, comme Charles le disait. Alors,
vous avez parlé de la responsabilité des partis politiques et des gouvernants. Les électeurs, la société civile, le citoyen lambda qui se laisse acheter, est-ce qu'il n'est pas autant responsable que les partis politiques?
Il est responsable, mais pas autant responsable que les partis politiques. Comme je l'ai dit, les partis politiques ont tendance à diriger le débat politique sur la capacité de pouvoir acheter ou de pouvoir offrir. Et les citoyens, vous avez au Mali des citoyens qui n'arrivent même pas à mobiliser 1000 francs par jour. Vous partez leur proposer 5000 francs, 10000 francs juste pour qu'ils votent pour vous. Et le débat autour de ça, c'est-à-dire vous n'avez pas un parti politique qui vient leur proposer des idées. Tous les partis politiques à la veille des élections, chacun essaye, peut-être à des gestes différents, mais chacun essaye d'acheter les gens. Et du coup, le débat, la sphère politique est carrément dominé par l'achat de conscience, par la capacité de pouvoir offrir. C'est ce qui fait que les citoyens ne s'intéressent plus. Et aussi, il y a ces désintérêts complets des citoyens vers les hommes politiques ou la chose politique, qui se disent que tous les partis politiques ou tous les hommes politiques, ils sont tous pareils. De toutes les manières, quand ils viennent pour s'enrichir. Autant pour nous, pendant les élections, qu'on profite d'eux. Parce que c'est le seul moment où les hommes politiques courent derrière les citoyens. Après cela, ils ne les voient plus. Donc, c'est l'occasion aussi pour ces citoyens de se dire, ben tiens, c'est le moment pour nous aussi de se faire un peu d'argent.
N'est-ce pas un échec aussi des organisations de la société civile qui doivent s'impliquer dans la
sensibilisation? C'est un échec de tous les acteurs de la démocratie. C'est un échec des organisations de la société civile, des partis politiques, du pouvoir, mais aussi des médias. C'est vraiment un échec collectif. Et pallier à cela, c'est seulement qu'il y ait des sanctions. Il y a des sanctions qui sont prévues pour de tels cas, si c'est avéré. Il faut qu'il y ait des sanctions. Mais tant qu'on est dans l'impunité et surtout que c'est encouragé de tous les côtés, pas que des citoyens, même souvent pendant les élections, on a aussi des médias ou des hommes des médias qui se font acheter par les politiques ou par les politiciens. Donc du coup, c'est vraiment à tous les niveaux. Des opérateurs économiques qui viennent et souvent, ce n'est même pas à face cachée. C'est visible. Souvent, c'est même avec fierté. Donc tant qu'il n'y a pas de sanctions, tant que ça, c'est encouragé par toute la population, c'est un échec collectif, pas que de la société civile.
Brima Fomba, est-ce que vous pouvez nous parler d'autres causes aussi qui sont différentes du non-respect des textes notamment?
Bon, vous voyez que, c'est-à-dire que pour bien appréhender cette question-là, il faut avoir un état d'esprit assez large, quoi, parce que c'est un phénomène qui s'avère multidimensionnel en réalité. Il y a beaucoup d'aspects dedans. Ça va jusque dans des aspects sociologiques. En tout cas, on peut intégrer ces dimensions pour essayer de comprendre. Moi, je vous donne un exemple. Pendant nos enquêtes de terrain, on a été parfois surpris de certains propos. Il y a certains électeurs, au cours de nos échanges, on s'est rendu compte que l'argent que les candidats dépensent pour être sur les listes, parce qu'il faut payer l'argent pour être sur les listes, ça va de 10 millions à peu près, comme je l'ai dit, hein, c'est une moyenne, 10 millions pour les législatives, jusqu'à de 1 500 000 à 500 000 pour les élections locales, en fonction de la position sur la liste. Comme ça, c'est un scrutin proportionnel. Donc vous voyez, et souvent ces montants, ce sont les électeurs, disons, ce sont les militants, quelquefois, qui ont poussé à la hausse de ces montants-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais non, c'est un indice de solvabilité du futur élu, donc du candidat et du futur élu, parce que plus les montants seront importants, plus on a des chances d'avoir, de pouvoir régler nos problèmes par le candidat qui pourrait faire face à nos problèmes d'ordonnance, souvent même simplement pour les frais de nourriture, etc. etc. Donc, vous voyez comment l'électeur lui-même, le militant, contribue justement à ce poids pris par l'argent. Donc, il y a toutes ces dimensions. Comment se fait-il que dans notre société, c'est pour ça que je ne suis pas aussi optimiste que le député lorsqu'il dit que, effectivement, si on allait vers le scrutin uninominal, qui ferait que la taille des circonscriptions serait beaucoup plus réduite, et du coup, le candidat serait plus proche un peu de l'électeur. Mais les élections communales sont quand même là. Sont un indice qui témoigne de cette proximité qui pour autant n'a pas abouti à un changement véritable des données. Hein? Donc comment se fait-il qu'au Mali, les citoyens vont vers quelqu'un qui a de l'argent? C'est tellement profond que parfois on a vu des gens pendant l'enquête qui disent que « Ah mais vous savez, moi j'ai pas payé d'argent. On est venu me solliciter pour être candidat parce que je suis dans la localité. » Mais quand on a crisé, qu'est-ce qu'on a constaté? Que cette personne-là, il y a 5 ans avant, 3 ans avant, lui, il est là à la charge de sa population. Les questions d'eau, d'addiction d'eau, de trucs, il règle les problèmes des gens. Donc, vous voyez que le fait que l'électeur aille vers lui, ce n'est pas parce qu'il est simplement, il est de la localité. Non, c'est parce qu'il a de l'argent. Il a les moyens, il a une capacité contributive de règlement des problèmes des gens. Donc vous voyez qu'il faut intégrer tous ces éléments-là. Et il y a aussi une autre dimension qui est, ce n'est pas les moyens privés. Cette fois-ci, c'est l'utilisation des moyens de l'État à des fins de campagne électorale. Là aussi, c'est une autre dimension qui fait que bon, le candidat n'utilise pas ses propres moyens, ni les moyens du parti, mais il utilise les moyens de la collectivité publique, les moyens de l'État pour sa campagne.
Et donc, le pauvre a-t-il les mêmes chances que le riche de devenir candidat?
Jamais. Ça, moi, je réponds qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous ne comptez rien. Y compris au sein des partis politiques. Vous voyez, c'est ce qui fait que ça joue contre le militantisme, parce que vous voyez qu'il y a un phénomène qui se développe aujourd'hui, c'est quoi? C'est les indépendants. Vous voyez qu'à chaque approche des élections, il y a des indépendants. Pourquoi? Les indépendants, en général, c'est les dessus des partis, et qui souvent, très militants, se sont engagés pour le parti, mais au jour J, mais parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont laissés à l'écart. Donc, ces gens-là se retrouvent dans le lot des indépendants. Donc, c'est vraiment un problème. Mais pour moi, ce problème-là ne va se régler. Bien sûr qu'il faut d'autres éléments, la sensibilisation, la formation, etc. Mais honnêtement, moi, je ne crois pas trop à ces choses. Hein. Au Mali, on est dans la sensibilisation, la formation. Mais ce qui ne marche pas au Mali, il faut qu'on rentre dans la sanction. Il faut qu'on rentre dans la sanction.
Monsieur Issa Togo, est-ce normal que le pauvre et le riche n'aient pas les mêmes chances de devenir candidat à différentes élections au Mali?
Non, merci, Monsieur Touré. Je disais au départ ici, vous me permettez, que je suis là en tant que député, mais aussi je suis élu d'une couleur. Je vais quand même un peu répondre à M. Sa. Il a dit qu'il s'agit des partis de la dynastie Adema et Sidite. Moi, je lui réponds. Pour lui dire, ce n'est pas une question de parti, c'est une question de valeur. Une question de valeur, de morale et d'éthique. Les partis, ce n'est que des cycles. Quand tu prends Adema, c'est A, D, E, M, A. C'est des cycles. C'est des valeurs. Je te disais que je suis venu à l'ADEMA en 2002. Là. Si c'est pour le pouvoir, peut-être que je n'allais pas venir. L'ADEMA a perdu son pouvoir en 2002.
Donc, à votre avis, c'est tous les partis qui sont concernés.
Qui disent tous les partis.
D'accord. Et donc, aujourd'hui, est-ce que
vous pensez
que... Il faut
qu'ils disent tous les partis sans exception.
Est-ce que vous pensez que...
Si son parti, il n'a pas les moyens,
Monsieur Togo.
Il est naissant, qui cherche à avoir les moyens.
D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il est normal que le pauvre et le riche n'aient pas les mêmes chances?
Je vous dis, et moi, je le répète, moi, pour moi, de mon point de vue, tout n'est pas argent. Oui, l'argent est rentré dans la politique. En 1992, quand Alpha se faisait élire, Alpha n'avait pas d'argent. Si c'est l'argent, Alpha n'allait pas être élu. Je vous dis, c'est les valeurs. C'est des valeurs, on a laissé faire. On a laissé faire à telle enceinte qu'il n'y a plus de valeurs. Les médiocres sont devenus les premiers. Il s'agit là, c'est un problème de gouvernance. De gouvernance, que je veux dire. Et les gens ont laissé faire jusqu'à ce qu'on est arrivé à un certain niveau. Comme on dit, beaucoup se sont enrichis. Les gens se sont enrichis. Maintenant, ils vont aller chercher la voix du peuple. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas l'apanage de l'ADEMA, du RPM, du CINID, je ne sais pas, de URD, de ceci, cela. C'est de tous les partis.
Et certains pensent que c'est la raison pour laquelle les candidats, une fois élus, s'intéressent beaucoup plus à leurs intérêts personnels qu'aux intérêts du public.
Ça, je ne le crois pas non plus.
Est-ce que vous croyez ça, Noumsar?
Moi, je ne le crois pas.
D'accord. Noumsar va réagir là-dessus.
C'est une évidence. Quand vous parlez de valeurs, voilà. Mais un parti politique, sa première mission, c'est d'incarner des valeurs.
Bien sûr.
Vous dites que l'ADEMA a quitté le pouvoir. L'ADEMA n'a jamais quitté le pouvoir.
Revenons sur cette question de responsabilité.
Non, honnêtement,
on va sortir de ce parlement. ADEMA,
je dis que je ne suis pas là en tant que majorité.
D'accord. Merci pour ces précisions. On va évoluer.
Là aussi, je suis prêt à discuter.
Merci beaucoup. Merci, M. Togo. Merci, M. Sarr. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à la question? M. Togo? Voilà, il va répondre à la question. Merci.
Votre question?
Je demandais aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui fait que, selon certains, une fois que les candidats sont élus, ils s'intéressent beaucoup plus à leurs intérêts personnels qu'aux intérêts du public?
Mais c'est évident. Parce que quand vous déboursez toute une fortune pour avoir un poste, votre premier réflexe, une fois au poste, ne sera pas de penser le développement, le progrès, mais ce sera de rentrer dans vos fonds. C'est ce qui se passe avec les maires. Le plus souvent, je n'ai pas vu l'étude parce que je n'ai pas tout lu, le montant des fonds investis dans les élections communales est quelquefois supérieur au montant investi dans les élections législatives. Parce que quand on contrôle une mairie, on a un patrimoine foncier et c'est beaucoup de sous aujourd'hui au pôle économique. Vous avez vu, beaucoup de maires sont derrière les barreaux. Parce que quand on est maire, et ça, c'est encore un tard de notre démocratie organisée par le parti de l'honorable Togo.
Non, c'est pas mon
quand
parti.
On est maire,
non, je ne laisse pas passer. Hein.
Quand on est maire, c'est oui. Contrôler le patrimone foncier.
Je vous donne 30 secondes pour répondre à cette question, mais laissez-le terminer.
Donc, d'accord. Quand on est maire, c'est vendre les terrains. Les maires sont connus par ça. Le maire, ton émo... Mais c'est important aussi parce que les citoyens ont leur part de responsabilité. Moi, Noumsar, aujourd'hui, mon combat n'est caché à personne. Mais à chaque fois que je vais à l'encontre de la population, à l'encontre des jeunes, et pour leur dire le moment est venu pour qu'on puisse prendre notre destin en main, vous savez, vous quittez, une semaine après, on vous appelle pour des ordonnances. On vous appelle pour vous demander, pour vous dire, bon, telle moto est en panne, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc ça, c'est une vérité incontestable aujourd'hui.
D'accord. Adam Diko, voilà. Alors donc si le niveau de responsabilité est partagé, que ce soit les médias, la société civile, les partis politiques, aujourd'hui, qui joue bien son rôle ?
Dans la démocratie malienne, je pense que chacun tente de jouer son rôle, mais je ne vois pas d'acteur qui joue bien son rôle.
Et comment changer la donne pour que la situation puisse changer?
Alors, que chacun connaisse déjà c'est quoi son rôle. Nous avons très souvent au Mali une société civile qui est beaucoup plus politique que les partis politiques. Beaucoup de gens sont dans la société civile aussi à la recherche de pouvoir. C'est-à-dire c'est comme si c'est un passage pour avoir un poste de responsabilité. Donc là, tant que la société civile joue ce rôle-là, ça va être très difficile qu'on puisse sauver notre démocratie. Donc c'est la société civile qui doit constituer ce contre-pouvoir-là, qui doit dire les vérités quand il le faut et à qui il le faut. Mais au Mali, quand il y a une société civile qui joue son rôle, très souvent, nous, on nous qualifie, on nous dit que nous, on est plus opposants que l'opposition, parce qu'on ne laisse pas les choses passer. Mais on est désolé, c'est ça la société civile. Il faut être ce contre-pouvoir, il faut savoir dire les vérités à qui et quand. Donc il faut que la société civile joue ce rôle. Il faut que les partis politiques reviennent à leurs valeurs. C'est ressorti ici. Mais quel est ce parti politique aujourd'hui au Mali qui incarne des valeurs et qui suit ces valeurs-là? Il y en a peu. Il faut aussi que les partis politiques sensibilisent leurs électeurs. Que les gens ne soient pas que des électeurs, mais qu'ils soient des militants, qui militent pour les valeurs de ces partis politiques et non pas pour l'intérêt du chef du parti et ainsi de suite. Mais là, la responsabilité des partis politiques est vraiment engagée à ce niveau. On voit qu'aujourd'hui, dans un parti politique, si un jeune...
Est-ce que les partis politiques sensibilisent même au Mali? Est-ce qu'ils n'appellent pas à voter plutôt que de sensibiliser?
On a vu ça pendant la campagne de révision de la liste électorale, du 1er au 31 octobre. groupe, nous avons déployé nos agents, c'était des agents d'assistance citoyenne, et on a été désagréablement surprise sur le terrain de voir qu'il n'y avait aucun parti politique qui avait mobilisé. C'est-à-dire, en 2020, on risque d'avoir les élections législatives et les élections régionales, mais pour la révision de la liste électorale, aucun parti politique n'était sur le terrain. Mais ils préparent les élections juste trois mois avant les élections, pour venir demander aux gens sortez, allez-y voter. En 2018, il y a plus d'un million de jeunes Maliens qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale. Cette année, peut-être, ça va, l'année prochaine plutôt, ça va aller peut-être au-delà de 2 millions. Mais ces 2 millions de jeunes Maliens peuvent amener la différence, peuvent amener l'alternance. Mais ces 2 millions de jeunes Maliens sont oubliés des partis politiques. Ils ne s'intéressent pas à eux. Tout ce qui les intéresse, c'est quand viendra les élections, comment acheter les femmes, comment acheter les jeunes qui sont dans les grains, leur donner le frais du thé pour qu'ils sortent pour aller voter pour eux. Mais ça ne peut pas changer la donne. Tant que nous avons un taux inférieur à 50% aux élections, on ne peut pas amener un changement. D'accord. Parce que c'est les mêmes personnes qui vont voter et c'est les mêmes personnes sont attirées par la même chose. C'est-à-dire celui qui a voté en 2013 à cause de l'argent a voté en 2018 à cause de l'argent. Et celui-là va voter encore en 2023 à cause de l'argent parce que tout ce qu'il connaît, c'est l'argent. Pour lui, aller voter, on doit lui payer pour ça. Celui qui doit amener le changement, c'est celui-là qui n'a pas encore voté. Et l'accent doit être mis sur celui-ci. Malheureusement, les partis politiques...
Merci, Adam. Alors, Brema Fomba, vous dites qu'une des solutions aujourd'hui, c'est la sanction. Qui faut-il sanctionner ?
Il faut sanctionner tous ceux qui violent la loi. C'est tout. C'est-à-dire que la loi est aveugle. Celui qui viole la loi est sanctionné, qui tu sois. Ça, c'est la règle de la démocratie. Donc, il n'y a même pas à identifier qui faut-il sanctionner. Il ne faut pas envisager cette question par rapport au groupe cible, la sanction, mais à la sanction, à la violation de la règle. Celui qui viole la règle est sanctionné. Ça, c'est vraiment un impératif, qui va s'ajouter aux autres, évidemment. Mais là, il y a des éléments quand même que je voulais rapidement dire concernant les liens entre le député et les électeurs. Vous avez posé en ces termes, mais il faut les poser également en termes de lien avec le parti lui-même. Bien sûr, les partis se disent que non, le mandat impératif fait que le député est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est refuser de voir le problème en face. Parce que pourquoi ? Le parti n'a aucune emprise sur le député. Parce que le député, il doit son mandat à sa poche. Donc, à l'Assemblée, mais il n'est sous aucune contrainte, il fait ce qu'il veut. Je voulais souligner cet aspect. Deuxième aspect, vous avez regretté le fait que les partis ne font pas la mobilisation. Mais là, quand vous me dites ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de me faire, je ne sais pas, harakiri à quelque sorte, de me faire violence moi-même. Quand je vois que l'État va jusqu'à donner 1 milliard de financement, vous imaginez, par an, à un seul parti politique. Et les autres, n'en parlons pas, c'est des 500 millions, 400 millions. Et ces partis ne sont pas capables d'être dans des activités politiques liées à des questions, par exemple, de révision des listes électorales. Vous voyez ? Donc ça interpelle qui ? Ça interpelle l'État. Parce que je suis étonné que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune réflexion à propos du financement public qui est vraiment de l'argent, notre argent jeté par la Fed. Et tout le monde est là. Apparemment, on est indifférent. Voilà aussi une question. Ça permettait de régler. Imaginez aujourd'hui, si l'État dit, le financement public, d'accord, ces fonds doivent être justifiés. Ces fonds ne seront justifiés que par des activités politiques de terrain. Sinon, ils remboursent l'argent.
D'accord, vous allez dernier tour de table, 30 secondes pour chaque invité. À vous, monsieur. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution là-dessus ?
Il y a une solution. Laquelle ? Il y a bien une solution. Je vais quand même y répondre un peu par rapport.
30 secondes, il nous reste juste 2 minutes.
Les liens entre les députés et son parti. Les députés, ce n'est pas un électron libre à l'Assemblée nationale, non. Les députés ont un lien étroit avec son parti. La preuve en est qu'on est organisé en groupe parlementaire. Les groupes parlementaires sont des excroissances des partis.
La solution.
La solution que je vous l'ai dit, moi je reviens là-dessus. Il faut que les Maliens, que ce soit les religieux, dont on n'en a même pas parlé. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus politiques que les politiques d'abord. On parle de sanctions, je me demande comment il faut les sanctionner. Il faut que chacun joue correctement son rôle. jouer son rôle, il faut qu'on revienne aux valeurs.
D'accord, que chaque acteur joue son rôle, c'est votre proposition. Noumsar, qu'est-ce que vous proposez?
Chaque acteur joue son rôle, mais que ceux qui violent la loi soient sanctionnés. Vous savez, le financement public des partis politiques, au niveau de mon parti, nous avons toujours été contre. Et il ne s'agit pas d'avoir un député ou pas. Tous les partis politiques au Mali qui tiennent une comptabilité ont droit à postuler. Mais nous avons dit que c'est du vol. Parce que quand on vous donne de l'argent...
Donc faut-il cesser de financer les partis?
Mais on ne devrait même pas commencer.
D'accord.
C'est encore là la dynastie
Adam Dicko, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Quelle est l'urgence tout de suite? Les partis de façon globale. Adam Dicko, allez-y.
Oui.
Merci, permettez à la... Question de genre, permettez à Adam de parler.
Genre,
les 30%.
Allez-y. C'est comme ça que les hommes politiques monopolisent.
Allez-y.
C'est comme ça qu'ils monopolisent
aussi le système. S'il vous plaît, merci. Adam Dicko.
Voilà, je disais que c'est comme ça que les politiques et les hommes politiques monopolisent le système.
Et donc, quelle est la solution aujourd'hui?
Donc, pour moi, la solution, c'est que le système doit être plus fort que les citoyens. Le système doit être plus fort que les citoyens. Les citoyens vont toujours avoir envie d'aller prendre de l'argent. Mais s'il y a des sanctions, et s'il n'y a pas quelqu'un qui va aller proposer de l'argent aux citoyens, là, il n'y aura pas ça. L'autre chose aussi, je propose qu'il y ait l'audit des partis politiques.
D'accord.
Vraiment, il faut qu'on audite les partis politiques.
Pour en parler plus rapidement, quelle est l'urgence, Brahima Fomba?
L'urgence, pour moi, c'est les réformes, c'est la réforme électorale pour au moins deux objectifs. D'abord, la question des finances des partis politiques. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la transparence absolue dans le financement des partis.
Des partis politiques. Merci beaucoup. On aura d'autres occasions pour aborder cette question. Merci à Brahima Fomba, coordinateur scientifique du groupe Odyssée. Issa Togo, député élu à Koro sous la couleur de ADEMA PSJ. Noumsar, président du parti FAD, représentant l'opposition sur ce plateau. Et Adam Dicko, directrice exécutive de AGICAD qui représentait la société civile. Ce débat était en partenariat entre Studio Tamani et le NIMD. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Peting Diarra. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry, Haloud Mouni.
Chienne Berry, Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.